Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce deuxième épisode de notre série sur l'influence et la persuasion, on va parler du principe de réciprocité. Pour illustrer ce principe, on va commencer par une petite histoire. En 1985, l'Éthiopie était probablement le pays le plus pauvre au monde. En 1985, l'Éthiopie souffre de sécheresse, de guerre civile, qui engendre parmi sa population une famine terrible, différentes maladies, etc. Dans l'échelle des pays, c'est probablement le pays qui était le plus mal en point à ce moment donné. Et pourtant, en 1985, l'Éthiopie choisit de donner 5 000 $ au Mexique. Mexique qui avait souffert un tremblement de terre à ce moment-là. Pourquoi est-ce que l'Éthiopie, le pays le plus pauvre au monde, choisit de donner de l'argent à un autre pays qui est comparativement plus riche, à un moment où vraiment ils en ont besoin? La raison, c'est le principe de réciprocité. En 1985, l'Éthiopie aide le Mexique. Parce que en 1935, l'Éthiopie avait été envahie par l'Italie et avait reçu le soutien du gouvernement mexicain. C'est-à-dire que 50 ans plus tard, les Éthiopiens considéraient qu'ils avaient une dette envers les Mexicains et qu'il était le moment de repayer cette dette. Cette petite anecdote illustre la puissance du principe de réciprocité. Un principe qui dit que si quelqu'un a fait quelque chose pour nous, nous nous sentons fondamentalement obligés de faire quelque chose pour cette personne en retour. Et vous vous en doutez, c'est un principe qui peut être utilisé de différentes façons pour influencer le comportement des gens. Et c'est un principe qui a son utilité en marketing que vous devez comprendre pour devenir un meilleur marketeur. Et donc dans cet épisode, nous allons explorer le mécanisme psychologique qui se cache derrière le principe de réciprocité. On verra ce qu'en dit la science, quelles études ont été menées pour prouver ce principe et quelles sont ses limites. Et on verra surtout comment appliquer ce que vous avez appris dans votre marketing pour faire plus de ventes et pour augmenter vos taux de conversion. Alors avant de commencer, je précise que cet épisode est le deuxième épisode d'une nouvelle série sur le podcast Marketing Mania. Cette série est basée sur le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Vous pouvez écouter cette série dans l'ordre ou dans le désordre, il n'y a pas grande importance. Le premier épisode a été publié la semaine dernière. Il traite du principe de preuve sociale. Les quatre prochains épisodes traiteront des quatre principes restants. Pour vous rappeler les six principes fondamentaux identifiés par Cialdini dans Influence, le premier, la preuve sociale, a été traité dans l'épisode numéro 1. Le deuxième, la réciprocité, sera traité dans cet épisode. Les quatre autres principes sont l'engagement, l'autorité, l'appréciation et la rareté. Si vous avez lu le bouquin Influence de Cialdini, que je vous conseille très vivement, cette série vous permettra de revisiter ces concepts fondamentaux très modernes du point de vue du marketeur web du 21e siècle. Si vous n'avez pas lu Influence, encore une fois, je vous le recommande, mais cette série vous permettra de découvrir les bases de ces principes psychologiques et vous allez découvrir que ces six éléments d'influence peuvent expliquer l'ensemble des actions marketing qui sont efficaces. Alors, pour en revenir à notre principe de réciprocité, la réciprocité est un principe psychologique qui nous pousse à faire une faveur à ceux qui nous ont aidés par le passé. L'Éthiopie qui aide le Mexique alors qu'eux-mêmes souffrent de famine et de guerre civile est un bon exemple. Mais vous avez d'autres exemples qui sont plus proches de votre vie quotidienne. Par exemple, si quelqu'un vous fait un cadeau, vous vous sentez obligé de faire un cadeau en retour. Si quelqu'un vous invite à dîner quelque part, vous vous sentez obligé de rendre l'appareil. Si quelqu'un vous rend service, vous vous sentez redevable de cette personne et vous avez envie de lui faire un service en retour. Le principe de réciprocité se traduit intérieurement par une sensation d'obligation, une sensation d'avoir une dette envers une personne. Cette dette se traduit à la fois par un aspect interne, c'est-à-dire une certaine pression psychologique pour rendre la faveur, mais également un aspect externe, c'est-à-dire une pression sociale de ne pas avoir l'air d'un ingrat. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme on en a parlé la semaine dernière avec la preuve sociale, la réciprocité n'est pas une invention récente. C'est un mécanisme psychologique ancestral qui existe depuis des dizaines de milliers d'années et qui a permis aux humains de fonctionner en tant que société. La réciprocité permet à un groupe de fonctionner parce que ça permet à un membre de faire une faveur pour un autre membre. Par exemple, si quelqu'un est blessé et ne peut pas chasser ou collecter sa propre nourriture, il peut attendre que les autres membres partagent leur nourriture avec eux. Et ces autres membres ne le partagent pas de pure façon altruiste, ils partagent parce qu'ils peuvent espérer que l'individu qui reçoit une faveur sera incité dans le futur à rendre cette faveur. La réciprocité permet donc à l'espèce humaine de coopérer, de partager des ressources. Et c'est pour ça que la recherche a montré que le principe de réciprocité existe dans toutes les cultures. Il est absolument universel à l'espèce humaine. Et à vrai dire, dans beaucoup de cultures, il existe à une échelle bien plus grande que notre culture actuelle. Donc le fait de devoir offrir un cadeau de Noël à votre cousin qui vous offre toujours une BD un peu pourrie, c'est un exemple de la réciprocité. Mais c'est un exemple à l'échelle de l'espèce humaine relativement bénin. Voyons quelques exemples qui prouvent la puissance étonnante du principe de réciprocité. Le premier exemple que je vais prendre, c'est une situation qu'on connaît tous. La situation où vous êtes au supermarché et quelqu'un veut vous offrir un échantillon gratuit. Mettons que c'est un échantillon de jambon où il vous fait faire goûter sa confiture, etc. Vous remarquerez deux choses. D'abord, numéro un, c'est presque toujours un individu qui vous fait goûter l'échantillon. Alors que pourtant, il faut payer le salaire de cette personne. On pourrait se dire, si le but était juste de vous faire goûter le jambon, il semblerait plus économique de mettre des échantillons sur une table et de vous laisser le goûter à votre guise. On pourrait imaginer que la personne qui est salariée pour être là est présente pour protéger les échantillons et pour éviter que les gens en mangent trop, mais probablement le fournisseur peut se permettre de dépenser ces échantillons. La raison pour laquelle cette personne est salariée à vous proposer un échantillon, c'est pour enclencher ce sentiment de pression sociale, de réciprocité. Si vous avez remarqué, la plupart d'entre nous se sentiront inconfortables après avoir mangé le jambon si on n'achète rien. Alors que le jambon était offert sans rien demander en retour, on sent une pression psychologique à rendre l'appareil, on sent une pression psychologique à acheter en retour et on se sent inconfortable au point que beaucoup d'entre nous préféreront ne pas manger l'échantillon gratuit même si nous en avions envie, pour éviter ce sentiment de pression psychologique que nous allons ressentir a posteriori. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe, cette pression psychologique, existe même si on connaît exactement comment fonctionne le principe de réciprocité et même si on sait à quoi sert la technique marketing de l'échantillon gratuit. Et c'est donc une très bonne illustration de la puissance de ce sentiment de réciprocité qui marche même si on sait à l'avance ce qui va se passer, et même si fondamentalement, on ne nous a rien demandé en échange. Un autre exemple de la puissance du principe de réciprocité, c'est une technique qui est utilisée par certains groupes de mendiants. C'est une technique qui a été inventée à l'origine par les Hare Krishna, qui sont une secte religieuse aux États-Unis. Et la méthode que les Hare Krishna avaient utilisée, qui avait fait exploser leur taux de donation, c'était au lieu d'aller voir quelqu'un et de lui demander de l'argent, ils allaient voir quelqu'un et ils lui donnaient quelque chose. En général, ils lui donnaient une fleur. Imaginez, vous êtes en train de marcher tranquillement dans un endroit touristique, quelqu'un s'approche de vous, vous tend une fleur, vous la prenez, et d'un coup, cette personne refuse de reprendre sa fleur, puisqu'évidemment, c'est un cadeau qui vous a été fait et rien n'est attendu en échange. Mais après vous avoir fait ce cadeau, évidemment, cette personne va vous demander, entre guillemets, une donation. Alors que vous n'auriez en temps normal pas donné de l'argent à cette personne, vous sentez un sentiment d'obligation, de faire une réciprocité. On vous a donné quelque chose, vous vous sentez obligé de donner quelque chose en retour. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens n'ont absolument aucune envie de recevoir cette fleur. Et les études de Cialdini montrent quelque chose d'assez intéressant, c'est que les gens reçoivent la fleur, sont obligés de donner quelque chose en retour, mais en se rendant à la prochaine poubelle, ils vont se débarrasser de la fleur, parce qu'évidemment, qui a envie de se balader avec une fleur dans la main toute la journée? L'idée ici, c'est que même si vous n'avez pas envie du cadeau qui vous a été offert, le mécanisme de réciprocité fonctionne quand même et vous sentez obligé de donner quelque chose en retour. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui a un peu évolué si vous allez dans un certain lieu touristique en Europe où vous allez avoir des individus qui vont s'approcher de vous, qui vont vous serrer la main et qui, pendant qu'ils vous serrent la main, vont vous placer un bracelet autour de la main, un bracelet qui ne peut pas être retiré. Et ils vous expliqueront que c'est un cadeau, mais qu'évidemment, le bracelet ne peut pas être retiré sans être coupé. Donc du coup, vous ne pouvez pas rendre le bracelet, et maintenant, vous allez avoir la pression psychologique de donner quelque chose en échange. Et bien sûr, ces personnes vont vous demander de l'argent en échange. Pour revenir sur un terrain plus académique, il y a une expérience très élégante qui montre la puissance du principe de réciprocité. Dans l'expérience, un sujet est amené dans le laboratoire pour une évaluation psychologique X ou Y qui est un prétexte. Le sujet est placé dans la salle avec un second sujet qui est un complice des chercheurs. Au cours de l'expérience, il y a une pause qui dure quelques minutes pendant laquelle le complice se retire de la salle, puis revient à la fin de sa pause. Dans 50% des cas, le complice revient les mains vides. Dans 50% des cas, il revient avec deux canettes de coca et il en donne une à l'autre sujet. C'est-à-dire que dans un des cas, le sujet reçoit une canette de coca gratuite de la part du complice. Dans l'autre cas, le complice revient les mains vides et il n'y a pas d'échange de faveur. À la suite de l'expérience bidon, la vraie expérience commence. Le complice se tourne vers le sujet et lui dit qu'il doit vendre des tickets pour une loterie. Et il demande au sujet si le sujet souhaite acheter des tickets de loterie. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que le sujet achète deux fois plus de tickets de loterie si on lui a offert un Coca-Cola. Et ce, même si le ticket de loterie coûte beaucoup plus cher que le Coca-Cola. C'est-à-dire que, ayant reçu un Coca-Cola dont la valeur est de 10 centimes, souvenez-vous que cette expérience est assez ancienne, donc à l'époque c'était 10 centimes de dollars pour un Coca. Ayant reçu un Coca-Cola qui vaut 10 centimes, le sujet va en moyenne acheter 50 centimes de tickets supplémentaires. C'est-à-dire que le retour sur investissement sur ce Coca-Cola de la part du complice est énorme, c'est x5. Et ce que ça vous montre, c'est que le principe de réciprocité marche même si la faveur qui vous est demandée est beaucoup plus importante que la faveur initiale qui vous a été faite. C'est aussi l'exemple de la fleur tout à l'heure ou du bracelet des pièges à touristes. C'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose qui pour vous a une valeur zéro et que vous allez mettre à la poubelle à la première opportunité. Et même comme ça, le principe de réciprocité va s'enclencher. Donc on arrive à la partie la plus pratique et la plus tactique de ce podcast, c'est-à-dire comment mettre en place ce principe pour améliorer vos conversions. La première méthode, c'est une méthode qui est assez connue, c'est de donner du contenu gratuit. Évidemment, ce podcast est un bon exemple, mais vous pourriez aussi faire un blog, faire des vidéos, donner des PDF, etc. Quand vous donnez aux gens quelque chose de qualité de façon gratuite, il y a beaucoup de motivation pour en arriver là. Ma principale motivation pour ce podcast est évidemment de créer un public, d'avoir beaucoup de gens qui me suivent, de démontrer mon autorité sur certains sujets, de démontrer ma compétence. Mais il y a aussi un aspect qui est que les gens qui vont écouter ce podcast, même s'ils ne deviennent jamais clients, vont développer un sens de dette envers moi. Et c'est quelque chose potentiellement qui peut m'aider sur le long terme à accomplir des choses. C'est quelque chose que vous pouvez vous également utiliser en donnant quelque chose de gratuit à votre prospect. Vous donnerez l'impression à ce prospect qu'il a une certaine dette envers vous. Et en écoutant un podcast récemment, j'ai découvert un exemple splendide de ce mécanisme. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité cinématographique, vous aurez entendu parler d'un film qui s'appelle The Martian. C'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon dans le rôle principal. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire derrière ce film. Le film a commencé d'une façon très différente. C'était à l'origine un roman auto-publié sur un blog. C'est-à-dire non seulement ce livre n'avait pas trouvé d'éditeur, il était aussi publié de façon gratuite sur un blog. C'est assez fou de se dire comment est-ce que ce gars qui publie de façon gratuite sur son blog passe de ça à faire un film Hollywood majeur avec Ridley Scott et Matt Damon à l'affiche. Alors voilà l'histoire. L'auteur qui s'appelle Andy Weir publie le roman sur son blog. Au fur et à mesure, un certain nombre de gens le contactent pour leur dire « Écoute, on aime bien ton livre, mais bon, moi, lire sur Internet, ça me gonfle un petit peu. Est-ce que tu ne peux pas plutôt le mettre sur Kindle ?» Donc la plateforme d'Amazon. Donc Andy Weir se dit « Ben écoute, pourquoi pas le mettre sur Kindle ? C'est vrai que c'est une meilleure façon de lire, c'est plus pratique, c'est plus ergonomique. » Donc il place son livre sur Kindle. Le livre devient un best-seller instantané. Pourquoi ? Selon la propre explication de Andy Weir, l'auteur du bouquin, il explique que les milliers de lecteurs originaux qui avaient déjà lu le livre entier, au moment où le livre est devenu disponible pour quelques dollars sur Kindle, il me semble que le prix était de 1 dollar, ils se sont jetés dessus, alors que pourtant ils l'avaient déjà lu. Et leur motivation était un sens de réciprocité. Ils avaient lu depuis des mois, des années, le travail de Andy Weir sans jamais pouvoir rien lui donner en échange, puisque tout ce travail était gratuit, qu'il n'y avait pas de donation possible, qu'il n'avait rien à vendre, ils ont accumulé un sens de dette envers lui. Et donc, quand son livre est devenu disponible, ils l'ont acheté. Non pas parce qu'ils voulaient le lire, ils l'avaient déjà lu, mais parce que ça leur permettait de soulager leur dette psychologique. Et bien sûr, le fait d'avoir cet influx initial de quelques milliers de lecteurs a engrangé un cercle vertueux qui a créé des évaluations sur Amazon. Souvenez-vous de la preuve sociale qui a permis au livre de monter dans les rankings, etc. Après, il y a un effet boule de neige. Bien sûr, le livre est excellent. Je vous le conseille d'ailleurs très vivement. Je n'ai pas vu le film, mais le bouquin est excellent. Bref, l'idée ici, c'est que à force de donner des choses gratuites à ses lecteurs, les lecteurs ont senti un sens de dette par rapport à l'auteur et ont voulu le soutenir quand le moment est venu. La deuxième façon de donner quelque chose de gratuit, évidemment, c'est la tendance des essais gratuits. C'est souvent quelque chose qui est utilisé pour des logiciels. On va vous donner 15 jours gratuits ou 30 jours gratuits d'utilisation avec l'idée qui est double. La première est que vous allez pouvoir utiliser le produit, vous convaincre de sa valeur et qu'au bout de 15 jours, de 30 jours, le produit sera devenu tellement indispensable que vous allez prendre le plan payant. Mais il y a un autre aspect qui est de donner de la valeur sans rien demander en retour. Si vous arrivez sur ma page de vente et je vous dis « donnez-moi de l'argent » et ensuite je vous donne le produit, ça donne une certaine friction. Si vous arrivez sur ma page et qu'il y a dit « écoute, je te demande rien, je vais faire le premier pas, je vais faire preuve de bonne volonté, je vais te laisser utiliser mon programme pendant 30 jours gratuitement sans rien demander », ça crée un sens de bonne volonté. J'ai donné le bénéfice du doute à l'autre personne. Et ça crée de la bonne volonté dans l'autre sens, c'est-à-dire que le logiciel apparaît plus attractif et la compagnie qui se trouve derrière a une certaine licence pour, par exemple, nous envoyer des emails. Quand vous êtes dans une période d'essai d'un logiciel, vous trouvez ça normal de recevoir un certain nombre d'emails de marketing qui vous semblent justifiés dans la mesure où on vous a donné l'accès gratuit à un logiciel. En échange, on a bien le droit de vous envoyer des emails, etc. Vous verrez qu'à partir du moment où vous avez arrêté de prendre l'essai gratuit, tout d'un coup, les emails marketing vont devenir largement plus irritants parce que vous n'avez plus ce sens de réciprocité. On ne vous donne plus rien en échange. L'idée des essais gratuits, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est souvent appliqué dans le milieu du logiciel, qui peut être utilisé dans d'autres milieux. Par exemple, si vous avez une formation en ligne, l'essai gratuit peut être une bonne façon de faire. C'est quelque chose qui est très utilisé par les communautés en ligne, c'est-à-dire les forums, etc., qui vont souvent avoir le premier mois à 1 euro ou le premier mois gratuit. C'est quelque chose qui a même été utilisé pour vendre des produits ménagers. Donc, il y avait une société qui s'appelle Amway, A-M-W-A-Y, qui est citée dans le bouquin de Cialdini pour une technique particulière de vente en porte-à-porte. Au lieu d'aller en porte-à-porte et d'essayer de faire la vente donc de produits ménagers, c'est-à-dire des produits de nettoyage, etc., au lieu d'essayer de faire la vente le premier jour, ils disent « Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une caisse de produits. On va vous laisser utiliser ces produits pendant 72 heures. Utilisez tout ce que vous voulez, c'est gratuit, on ne vous demande rien en échange. » Ce que Amway a découvert en utilisant cette politique, qui sur la surface apparaît assez laxe, on va laisser les gens utiliser pendant 72 heures tout ce qu'ils ont besoin, ils ont découvert qu'au bout de 72 heures, la personne qui a utilisé un certain nombre de produits se sent mal de rendre la caisse de produits au vendeur sans rien acheter. On a l'impression que cette personne a pris du temps pour venir nous voir deux fois, nous a laissé une caisse de produits, on a utilisé ces produits et en plus on ne va rien acheter. Ça paraît tellement ingrat que la plupart des gens se sentaient obligés d'acheter. Ce que Amway a découvert, c'est que leurs ventes ont explosé suite à la mise en place de cette technique avec 50% des gens en moyenne qui achetaient le produit. Et si vous pensez que c'est de la vente en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'à froid, on va aller toquer à des portes, C'est un résultat qui est incroyable. Et c'est un exemple d'un essai gratuit qui peut être mis en place de façon créative dans une situation où alors, on n'est pas sur du software, on n'est pas sur des choses immatérielles, c'est des choses purement matérielles. Mais évidemment, le calcul ici est que le gain de vente est tellement fort que ça vaut le coup de financer les produits qui vont être utilisés par ces personnes qui n'achètent ou qui n'achètent pas. Une autre méthode pour enclencher et pour utiliser le principe de réciprocité, c'est le fait d'offrir des cadeaux. C'est quelque chose qui est très utilisé par les associations caritatives. Les associations caritatives qui vous demandent de l'argent, parfois tentent de vous envoyer un petit cadeau, c'est-à-dire un porte-clés, un stylo, des autocollants à votre nom, etc. Ces cadeaux ont été prouvés comme étant efficaces, y compris quand ils sont non sollicités, y compris quand ils n'ont pas fondamentalement grand intérêt. Avoir un porte-clés et un resto du cœur n'est pas quelque chose qui va particulièrement ajouter à votre vie. C'est dans la même veine que les fleurs des Hare Krishna ou que le bracelet qu'on vous met au bras. Mais vous avez l'impression qu'on vous a fait un cadeau, qu'on a fait un effort, qu'on vous a donné quelque chose et vous vous sentez obligé d'envoyer quelque chose en retour. Et vous voyez que ces associations n'essayent jamais de vous mettre de la pression. C'est toujours « Ah, ce cadeau est offert pour vous. Quoi que vous choisissez de faire en retour, c'est à vous de décider ce que vous choisissez de faire. » Et le fait que non seulement on vous donne un cadeau, mais qu'en plus, on vous dise que vous n'avez rien à donner en retour, vous rend coupable et vous donne une dette psychologique où vous êtes plus probable d'envoyer de l'argent en retour. C'est quelque chose qui a été prouvé dans les chiffres de très nombreuses fois. Croyez-moi que ces associations n'envoient pas des cadeaux qui coûtent de l'argent à produire malgré tout, sans avoir mesuré leurs résultats. Et un chiffre en particulier que j'avais trouvé qui vient de cette association qui s'appelle la Disabled American Veteran Association, c'est qu'ils arrivaient à avoir un boost de plus 50% de leurs ventes en envoyant un petit cadeau. Évidemment, c'était dans les années 70, c'est-à-dire au début de l'utilisation de cette tactique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la tactique soit aussi efficace, mais la pression psychologique est probablement suffisante pour faire craquer à certains pourcentages de personnes. La dernière méthode pour utiliser le principe de réciprocité, c'est de donner aux gens un sens que ce que vous leur donnez vous a coûté beaucoup. Imaginez le sens de réciprocité que je peux enclencher par faire ce podcast. Ce podcast, je vous l'offre gratuitement et ça vous apporte de la valeur. Mais le sens de réciprocité que vous allez avoir avec moi après ce podcast sera assez minime. Pourquoi ? Parce que vous dites, écoute, des milliers de personnes ont écouté ce podcast, ça ne coûte rien à Stanislas que je l'écoute. Imaginez qu'à la place de mettre ce podcast sur Internet, je mettais un formulaire où vous pouvez remplir votre nom, votre prénom et votre adresse et je vous envoie par la poste un CD-ROM avec mes podcasts. Si je faisais ça, vous aurez sans doute un sens de réciprocité beaucoup plus important parce que vous dites, quand même, il a fallu payer le timbre, il a fallu payer le CD, etc. Même si fondamentalement, vous préférez sans doute avoir le fichier MP3 direct que devoir attendre pour avoir en plus un CD qui est une technologie un peu obsolète, l'impression que les choses me coûtent vont enclencher plus de réciprocité. C'est un problème qu'on a beaucoup sur le web où si vous offrez un PDF, si vous offrez un article, mon impression est que ça ne vous coûte rien. Et donc du coup, mon sens de réciprocité sera assez faible puisque vous avez fait un sacrifice minime. De mon côté, je vais faire un sacrifice qui est minime. C'est différent, par exemple, du cas de l'échantillon dans un supermarché. Où l'échantillon dans le supermarché est certes tout petit, mais c'est quelque chose de physique. Je le prends, une autre personne ne peut pas l'avoir. Et donc, je me sens plus coupable de manger votre échantillon et de ne rien acheter plutôt que de télécharger votre PDF ou que lire votre article et de rien acheter. La solution, c'est de donner aux gens un sens de ce que ça vous coûte. Et quelqu'un qui fait ça extrêmement bien, c'est un homme qui s'appelle Olivier Lambert, qui a été sur le podcast. Il y a une interview avec lui sur le podcast si ça vous intéresse. Olivier Lambert a un blog sur le marketing et il a une page de donation. C'est-à-dire, vous pouvez lui donner X euros par mois, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, pour le remercier de son travail. La donation, c'est quelque chose qui a été fait très souvent, mais Olivier a ajouté un twist très intéressant. Olivier vous dit, à la fin de chaque article, cet article a coûté 18 cafés à faire. Si vous voulez m'acheter un café pour financer la création de nouveaux articles, cliquez ici. L'idée, c'est que Olivier repositionne l'article dans votre tête. Au départ, l'article dans votre tête, c'était juste un article sur le web quand vous avez lu des milliers, ça coûte rien, etc. Il repositionne ça en vous disant, cet article a été fait avec la sueur de mon front. Il a pris 18 cafés à faire, il a pris longtemps, il a pris du temps, il a pris de l'effort, il a pris de l'amour, etc. Olivier vous pousse à imaginer qu'il a travaillé dur, gratuitement, pour vous aider. Et donc, il enclenche ce mécanisme de réciprocité. Vous vous dites, à la vache, le mec a travaillé dur. Et si vous appréciez son contenu, vous vous sentez poussé à faire quelque chose en échange pour Olivier et dire, écoute, je lui payais un café par mois, c'est pas beaucoup, Et ça, ça fonctionne parce que Olivier vous donne la vision de ce qu'il a fait pour vous lui a coûté. En conclusion, le principe de réciprocité, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui a permis à l'espèce humaine de survivre depuis toujours. Le principe de réciprocité vous permet deux choses. La première chose, c'est qu'il vous permet de donner de la valeur sans rien demander en retour, car vous savez que vous pourrez bénéficier de cet effort plus tard. C'est ce qui me permet aujourd'hui de créer ce podcast sans rien vous demander en retour de particulier. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'obligation, mais je sens que peut-être, si ce podcast vous a apporté de la valeur, certains d'entre vous se sentiront charitables et se sentiront poussés à faire une faveur pour moi en retour. Que ce soit devenir client, me référer un client, me laisser une évaluation, s'abonner à ma liste email ou tout simplement partager un podcast ou un article qu'ils ont apprécié avec un ami. La deuxième chose que vous permet le principe de réciprocité, c'est de créer une relation plus profonde avec votre client en lui donnant quelque chose initialement, en comprenant que plus tard, il sera poussé à rendre la faveur. Et c'est le mécanisme, évidemment, de l'échantillon gratuit, de l'essai gratuit, de dire « écoute, je vais faire le premier pas, je vais te donner quelque chose sans rien demander en retour, parce que je pense que la décence humaine te poussera plus tard à faire une faveur réciproque. » Alors pour terminer sur ce podcast, si vous avez apprécié l'épisode et que vous n'avez pas écouté l'épisode précédent sur la preuve sociale, je vous conseille d'aller l'écouter, parce que c'est un autre épisode qui rentre en profondeur dans la psychologie de l'influence. Les quatre épisodes suivants entreront dans les quatre mécanismes restants de l'influence. Si vous ne voulez manquer aucun de ces épisodes, rendez-vous maintenant sur marketingmania.fr/podcast et vous pourrez trouver différentes façons de vous abonner par email, sur iTunes, par Stitcher. Vous pourrez donc télécharger de façon automatique les nouveaux épisodes sur votre téléphone et vous aurez toutes les options pour vous abonner à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Et pour terminer, évidemment, je vais utiliser la réciprocité pour essayer de vous convaincre de me laisser une évaluation iTunes. Saviez-vous que cet épisode prend 1h30 à préparer? Il m'a pris ensuite une quarantaine de minutes à enregistrer et après ça, ça prendra encore 1 heure pour mon ingénieur son de monter cet épisode et à peu près 1 demi-heure pour le mettre en ligne sur les différentes plateformes. En comptant la préparation, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne, etc., l'ensemble de cette série sur l'influence qui va prendre 6 épisodes va me prendre environ 25 heures à créer. Et je suis parfaitement heureux de vous l'offrir de façon gratuite et sans contrepartie. Et j'espère vraiment que cette série pourra aider de nombreux marketeurs à faire plus de ventes et à améliorer leur taux de conversion. Ce podcast ne me rapporte rien puisqu'il n'y a pas de pub et il restera toujours gratuit. Mais si par hasard, après avoir entendu tout ça, vous souhaitez, par votre bon cœur, prendre 2 minutes pour me remercier, voilà ce qui m'aiderait le plus. Rendez-vous à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Vous verrez à cette adresse les instructions pour me laisser une évaluation sur iTunes ou sur votre podcast de plateforme favorite. Laissez-moi une évaluation, ça prend 2 minutes. Une fois que vous aurez laissé votre évaluation, n'hésitez pas à partager cet épisode avec un ami qui est intéressé par la psychologie, un ami qui s'intéresse au marketing et qui veut devenir meilleur, un ami qui pourrait bénéficier de ce que j'ai raconté dans cet épisode. Et donc j'espère que le principe de réciprocité vous aura incité à me faire cette faveur en retour de cet épisode. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine pour le prochain épisode sur la psychologie de l'influence. D'ici là, je vous souhaite d'augmenter votre taux de conversion, je vous souhaite une semaine très productive et je vous dis à la semaine prochaine.